La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. Alerte sur les coraux, ces animaux sont en danger. Car oui, les coraux sont des animaux dotés d'un squelette calcaire externe qui s'accumule jusqu'à former des récifs. Et ça fait maintenant des années, hélas, que les biologistes marins tirent la sonnette d'alarme concernant la dégradation de ces écosystèmes. Et c'est aux hommes, aux effets du changement climatique, que l'on doit aujourd'hui le mauvais état des récifs coralliens. Le réchauffement, l'acidification des océans sont la cause principale de la menace qui pèse sur les coraux. Et à l'occasion de la journée mondiale de l'océan 2, et de l'année internationale pour les récifs coralliens en cours, l'UNESCO à Paris présente une exposition photographique grand format et immersive au cœur de ces récifs. C'est l'occasion pour la tête au carré de plonger ensemble, de mettre en lumière donc ces organismes marins indispensables à la vie et de comprendre quels sont leurs mécanismes biologiques. On en parle avec mes invités et toutes vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé d'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui à la une de la science? Oui, on part vers Pluton, oui. L'ex-planète du système solaire.
Et oui, car la sonde New Horizon de la NASA vient de débusquer des dunes sur cette planète naine. On parcourt donc un désert de méthane froid avec le planétologue François Forget dans un instant.
Et puis en fin d'émission, nous retrouverons la chronique de santé polémique du docteur Dupin, consacrée aujourd'hui au congrès annuel des cancérologues américains qui vient de se terminer à Chicago. Fanny Boyon réalise cette tête au carré préparée par Chantal Le Montagnier avec Hannibal Wachi.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Les récifs coralliens, ce sera le dossier dans un instant avec mes invités que je salue, le biologiste marin Bernard Salva et le photographe sous-marin Alexis Rosenfeld. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Et bienvenue. Bernard Salva, les mauvaises nouvelles se suivent pour les récifs coralliens, en tout cas ce qu'on reçoit régulièrement. Est-ce qu'on peut encore agir vraiment pour les sauver? On a vraiment les outils, la capacité de le faire?
Oui, certainement. En tous les cas, il faut essayer, mais c'est surtout les rejets de gaz à effet de serre sur lesquels le citoyen a peu de moyens d'agir, parce que ça se passe à un espace à un niveau mondial ou global. Mais en revanche, ce sur quoi nous pouvons agir, c'est une meilleure gestion des récifs coralliens, de façon à ce qu'ils soient en meilleure santé pour affronter les changements climatiques.
Ouais. Alexis Rosenfeld, montrer la beauté des coraux, c'est une façon finalement de s'engager aussi pour leur protection?
C'est une solution pour s'engager. C'est aussi de sensibiliser le grand public et de les amener à avoir conscience de l'importance qu'ils ont sur ce travail photojournalistique. Produit pendant 2 ans, c'est le message avec Alexis Valois qu'on a voulu passer.
Et on ira donc à l'UNESCO devant les grilles, entre autres, pour voir ces photos grand format. On va se retrouver donc dans un instant pour évoquer ces récifs coralliens et vous répondrez aux messages des auditeurs qui nous rejoignent sur le site de l'émission. Comment des dunes peuvent se former sur la planète naine Pluton? Une énigme élégante que viennent de dénouer des chercheurs français et américains, et c'est aujourd'hui à la une de la science.
Où commencent, où finissent ces terres arides et tourmentées, ces terres inhospitalières? Des dunes et ces courbes permanentes, œuvre du vent, de dune en dune, de courbe en courbe, c'est le vent qui sculpte les déserts.
Voilà, c'est une description là du Sahara dans un documentaire de 1973, mais qui s'applique parfaitement au paysage de Pluton. Depuis son survol de la planète naine en 2015, la sonde New Horizons a permis de dévoiler de nombreux paysages uniques, autant de clichés que d'énigmes d'ailleurs pour les planétologues. Et aujourd'hui, ce sont des dunes de méthane dont la température ne dépasse pas les moins 236 degrés qui sont dévoilées par la NASA. Et Axel, on parcourt ce désert avec un des auteurs français de ce travail, publié dans la revue Science.
Oui Mathieu, et nous sommes au téléphone avec le Centre Européen de Technologie Spatiale de Noordwijk aux Pays-Bas avec le planétologue François Forget. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche pour le CNRS à l'Institut Pierre-Simon Laplace et vous êtes membre de cette équipe de New Horizon. Alors pourquoi est-ce que quand vous avez découvert sur ces photos prises en 2015 des structures qui ressemblaient à des dunes, vous avez tous été très surpris?
Oui, parce que on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait des dunes vu que la pression sur Pluton est 100 000 fois plus faible que sur Terre. On a une atmosphère extrêmement ténue. Alors heureusement, comme il fait très très froid, l'atmosphère est un peu plus dense, si vous voulez. Quand on est, l'air est plus froid, il est plus dense. Et puis la gravité est plus faible, donc ça pouvait contribuer à expliquer un petit peu. Malgré tout, ça reste une atmosphère tellement fine que si vous promeniez sur Pluton dans un scaphandre, même quand le vent est au plus fort, vous ne sentirez rien du tout. Oui. Alors on a été surpris, mais effectivement, on a pu mener l'enquête et montrer que c'était probablement des dunes.
Alors sur Terre, quels sont les mécanismes qui entraînent du coup la formation des grandes dunes de sable qu'on connaît par exemple au Sahara ?
Oui, sur Terre, tout le monde connaît ça. C'est simplement le vent souffle sur le sable. Donc, il est un petit peu mis en mouvement, parfois en roulant à la surface, voire en étant soulevé dans l'atmosphère. Et puis, il suffit qu'une petite crête se forme. Les grains vont s'accumuler du côté amont. Et puis, à force, ça va augmenter. Puis, côté aval, vous avez tous déjà vu ça. Ça fait une espèce de pente où il y a régulièrement des petites avalanches au fur et à mesure que le sable s'accumule côté amont. Et puis, voilà, ça fait des dunes.
Alors, qu'est-ce qui manquait sur Pluton pour que vous ayez pris conscience que ce soit des dunes du premier coup d'œil?
Alors, la première chose, c'est qu'encore une fois, l'atmosphère est tellement fine, tellement ténue qu'elle n'est pas normalement capable de transporter des particules de quelques millimètres, et surtout, elle n'est pas du tout capable de les soulever. L'image, si vous voulez, c'est si vous prenez une assiette avec de la farine, vous la mettez dans votre jardin. À la limite, si vous tapez dedans, vous allez voir les grains de farine faire une espèce de fumée et être transportés par l'atmosphère. Pour ça, il n'y a pas besoin de beaucoup de vent, pas beaucoup d'atmosphère. Par contre, pour soulever, là, il faut beaucoup de vent. Alors, on a pu montrer que l'air était suffisamment dense pour transporter les grains de méthane et c'est surtout résoudre l'énigme du soulèvement qui n'était pas facile. L'autre point, c'est que sur Pluton, on voit beaucoup de choses qui sont quand même très bizarres. C'est très exotique, Pluton. Et des choses qui ressemblent à des dunes avec des crêtes et des vallées, vous voyez, régulièrement espacées, on en voit ailleurs. Et là, on attribue ça à des figures liées à la sublimation et la condensation des glaces. Et ça fait aussi des formes similaires. Mais là, dans ce cas précis, ça ne collait pas parce que les dunes, elles tournent. Elles sont pas toujours dans la même direction. D'habitude, c'est contrôlé par, vous voyez, l'éclairage du soleil. Donc, normalement, c'est perpendiculaire au soleil, etc. Là, ça tourne avec apparemment la direction du vent. Donc, on avait vraiment l'impression de voir des dunes.
Est-ce que vous avez été capable d'estimer la taille de ces dunes sur Pluton ?
Oui, typiquement, en longueur, elles font entre quelques centaines de mètres et un kilomètre. En longueur, c'est-à-dire l'écart entre chaque crête, vous voyez ? Et c'est pas facile de mesurer la hauteur, mais on comprend que c'est quelques dizaines de mètres au plus, quoi.
Est-ce que, François Forget, les dunes, c'est quelque chose de fréquent dans le système solaire ?
Ah oui, il y en a partout. Enfin, dès qu'il y a une atmosphère, il y en a bien sûr sur Terre, il y en a bien sûr sur Mars. N'importe qui a déjà vu un peu des images sur Mars. En particulier, vous voyez, quand on voit les images prises par les rovers qui circulent à la surface, partout, là, on voit des accumulations de sable en forme de dunes. On en a aussi vu des très très belles sur Titan. Alors c'est très exotique parce que ce sont des dunes constituées non pas de sable mais de polymères organiques. C'est caractéristique à Titan. Et puis là, dans ce cas, on est sur Pluton. Avec de la glace de méthane.
Et justement, est-ce que le fait qu'on retrouve ces formes, ces structures un peu partout, dans des mondes avec des conditions extrêmes très différentes, c'est quelque chose d'intéressant pour vous ? C'est un invariant qui vous permet de travailler ?
Oui, tout à fait. Alors, déjà, c'est intéressant parce que c'est très passionnant pour un chercheur, un physicien, de voir comment la nature, selon les conditions, les matériaux, les températures, etc., va appliquer, entre guillemets, les règles de la physique et de la chimie. Mais en particulier, moi, personnellement, je travaille dans un institut qui étudie le climat en général, et notamment le climat de la Terre. Et étudier les dunes, ça paraît rien, mais en fait, la distance entre les dunes que j'évoquais tout à l'heure, c'est contrôlé par les caractéristiques de la turbulence et de la convection dans la couche limite. Or, ça, c'est un sujet très important sur Terre, parce que c'est ça qui contrôle le comportement des nuages. Et le comportement des nuages, c'est la grande incertitude dans notre compréhension de l'avenir de la Terre, du changement climatique. Et donc finalement, en étudiant bêtement juste l'écart des dunes sur d'autres mondes aussi différents que Pluton, on teste nos théories, nos outils, nos modèles ailleurs et on voit si on comprend bien ce qui se passe.
Tout ça grâce à quelques photos de la sonde New Horizon. D'ailleurs, quelle est la prochaine destination ? Quelles sont les prochaines photos qui vont vous permettre de travailler ?
Alors, on a... Vous savez peut-être que quand New Horizons a survolé Pluton en juillet 2015. Et après, il nous a fallu des mois et des mois pour récupérer toutes les images. Bon, maintenant, on a tout reçu. Et la prochaine destination, bien Pluton, New Horizons n'a pas terminé sa mission. On a réorienté la sonde vers un corps qui a été découvert il y a quelques années par Hubble et qui s'appelait, dans notre jargon, on l'appelait MU69. On vient de le rebaptiser Ultima Thule. Et donc, c'est un petit monde. Hein. C'est quand même environ 30-40 km de diamètre. Très très lointain, l'objet le plus lointain jamais observé, et New Horizons va le survoler à quelques centaines, enfin plutôt quelques milliers de kilomètres. On a ajusté la distance pour que la caméra soit le plus efficace possible, et ce sera dans la nuit, en fait le matin du réveillon du 1er janvier 2019.
Ah, magnifique, effectivement. Oui. François Forget, Pluton intéresse toujours finalement, malgré son déclassement de la liste des planètes, hein, c'est ça?
Oui, bah, le déclassement, pour nous, ça n'a pas de sens. Au sens, je ne suis pas pour ou contre ça. Mais disons que c'est un petit peu comme si, vous voyez, on avait autrefois appelé l'Australie un continent, et puis qu'un jour, un comité avait décidé de le débaptiser et dire que c'était juste une île. Ça, pour les kangourous, ça change rien, et pour nous, les planétologues, ça change pas grand-chose. Malgré tout, ce qu'on a vu avec New Horizons, c'est que Pluton était un monde extrêmement actif, extrêmement riche, avec une grosse lune Charon, c'est tout un système. C'est le représentant d'une immense population de corps au-delà de l'orbite de Neptune, qu'on a découvert finalement que récemment. C'est pour ça qu'elle a été dégradée. En même temps, ça renforce son intérêt. Donc elle a été dégradée pour des bonnes raisons. Au lieu d'être un objet bizarre tout seul qui était une planète, c'est une planète même peut-être, mais qui est l'ambassadrice d'une immense population très très intéressante.
Voilà, déclassée en 2006 en l'occurrence pour Pluton. Merci beaucoup François Forget pour ces explications depuis les Pays-Bas. Et Axel, on se retrouve demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, il y a 541 millions d'années, un petit animal arpentait la Terre et y a laissé ses traces, ce qui a permis à une équipe chinoise de mettre au jour les plus anciennes empreintes fossilisées connues. La créature en question n'a pas été identifiée car aucun fossile n'a été retrouvé près de ses marques. Mais les chercheurs pensent que l'animal présentait une symétrie bilatérale. Il y a fort à parier qu'il s'agissait là d'un ancêtre des arthropodes, regroupant les insectes ou les crustacés, ou des tétrapodes de la classe des reptiles. Le couscous, c'est un plat oriental qui s'apprécie à travers le monde, mais c'est aussi une espèce menacée de marsupial de l'île indonésienne des Célèbes. Et bonne nouvelle pour les couscous, pour la première fois, un individu est né en captivité. Pour l'heure, les équipes du zoo de Wrocław, en Pologne, observent de loin le petit animal s'aventurer hors de la poche de sa maman. On ne connaît ni son sexe ni son nom, mais sa naissance ravit tout le monde. Un espoir pour cette espèce dont la population devrait diminuer de 30% dans la décennie à venir à cause de la chasse et de la déforestation. Et puis pour terminer, un atlas génétique de notre sang. Une équipe internationale coordonnée par l'université de Cambridge s'est lancée dans la compilation des codes génétiques de toutes les protéines qui circulent dans nos veines et donc dans notre corps. En l'occurrence, ils en ont scanné 3600 grâce à cette publication qui vient de paraître. Ils comptent aider la recherche sur de nombreux types de maladies en permettant de croiser les données. Un travail rendu possible par les avancées dans le domaine du séquençage haute vitesse et qui vient de paraître dans la revue Nature. Et les récifs coralliens, dossier de la tête au carré dans un instant.
Des boum et des bangs, agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. À pleurer les larmes dingues d'un corps que je t'avais donné. J'ai sur le bout de la langue ton prénom presque effacé. Tordu comme un boomerang, mon esprit l'a rejeté. De ma mémoire qu'à ma bringue, et ton amour m'ont épuisé. Je sens des boums et des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. À s'aimer comme des dingues, comme de fous alliés. Sache que ce cœur exsangue pourrait un jour s'arrêter. Si comme un boomerang tu ne reviens pas me chercher. Peu à peu je me déglingue, victime de ta cruauté. Je sens des boums et des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. À t'aimer comme une dingue, prête pour toi à me damner. Toi qui fais partie du gang de mes séducteurs passés, prends garde à ce boomerang, il pourrait te faire payer toutes ces tortures de cinglé que tu m'as fait
endurer. Je sens des boumes et des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. C'est une histoire de dingue, une histoire bête à pleurer. Ma raison vacille et tangue, elle est prête à chavirer sous les coups de boomerang, de flashbacks enchaînés. Et si un jour je me flingue, c'est à toi que je le devrais. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. À pleurer les larmes dingues encore que je t'avais donné.
Voilà deux voix, celle de Dao et de Dany, comme un boomerang.
La tête au carré sur France Inter.
Et on parle cet après-midi des récifs coralliens pour comprendre pourquoi ces animaux marins sont vitaux pour les océans et aussi pour l'humanité d'ailleurs. Bernard Salva, vous êtes biologiste marin, professeur émérite à l'École pratique des hautes études et fondateur du CRIOB. C'est le centre de recherche sur les milieux coralliens et insulaires. Ça fait combien de temps maintenant qu'existe le CRIOB ?
50 ans presque, et c'est à Montréal, en Polynésie française.
Oui, donc vous avez eu l'occasion d'aller très souvent là-bas, évidemment. Alexis Rosenfeld, vous êtes photojournaliste, photographe sous-marin, engagé donc pour la protection des récifs coralliens, et on peut voir votre travail donc en ce moment dans cette exposition Récifs coralliens, un enjeu pour l'humanité, qui est visible jusqu'au 30 août au siège de l'UNESCO à Paris. Et les auditeurs nous rejoignent déjà nombreux avec des questions, donc c'est encourageant parce que c'est l'année internationale des récifs coralliens, et on voit que le public s'y intéresse aussi. Bernard Salva, depuis quand, finalement, effectivement, le public est bien sensibilisé à ces problématiques ?
Bon, les chercheurs ont tiré la sonnette d'alarme aux environs des années, début des années 80. Et ensuite, il y a eu des actions nationales et internationales qui se sont développées à partir de 91. Et pour le grand public, ça a démarré avec beaucoup de films. Et ça, la sensibilité s'est faite forte à partir de du début des années 90, on peut dire.
Ouais. Qu'est-ce qui a fait qu'en 1981, on tire la sonnette d'alarme, justement ? Quel a été l'événement là, à ce moment-là ?
Écoutez, à ce moment-là, on ne parlait pas du changement climatique. Ouais. C'était surtout les dégradations anthropiques, c'est-à-dire on gère mal les zones côtières, beaucoup de sédimentation, on construit des ports, on construit des aéroports sur les lagons, etc. Et déjà, dans la fin des années 90... on a estimé, on a indiqué qu'il y avait à peu près 20% des récifs coralliens qui avaient été irrémédiablement détruits et condamnés.
Irrémédiablement,
oui. Ouais. Ça n'est pas des phénomènes de blanchissement où le corail blanchit, mais après se rétablit. Ouais. Là, c'est irrémédiablement condamné. Et ces 20%, on les ressort souvent dans la littérature, mais c'est des 20% qui n'ont rien à voir avec le changement climatique. Le changement climatique, les effets du changement climatique, il est devant nous. Il n'a pas encore fait énormément d'effets, ou alors très localisé. Et donc, vous voyez, ça remonte à peu près la fin des années 90. Déjà, 20%, c'est important. Dans certaines régions, ce 20% a été dépassé depuis, comme les Caraïbes, où il y a eu vraiment beaucoup plus de pollution.
Ouais. Qu'est-ce qui fait que certains, justement, récifs coralliens sont condamnés de façon irrémédiable, alors ?
Ah, ben, quand vous construisez un aéroport sur un lagon corallien, là, il disparaît inévitablement. Du côté des Hawaï, il y a eu beaucoup de sédimentation terrigène qui a étouffé les récifs. Et là, ils sont morts irrémédiablement. À moins d'enlever tous les sédiments, on ne peut pas reconstruire des structures qui soient dures pour les récifs dans des milieux qui sont sableux.
Alexis Rosenfeld, justement, votre travail, c'est de plonger pour photographier ces récifs. Là, le choix que vous avez fait pour l'UNESCO, pour cette exposition, c'est d'en montrer la beauté avant tout. C'est ça qui va d'abord sensibiliser le public.
Évidemment, c'était...
Parce qu'il n'y a rien de plus triste qu'un récif complètement blanc. Et...
Nous avons fait le choix de partir sur la beauté des récifs coralliens, de sensibiliser sur la beauté des récifs coralliens. Mais pour reprendre ce que vient de nous raconter le professeur Salva, aux Maldives... Il y a des zones qu'on retrouve dans cette exposition d'ailleurs, qui sont complètement mortes et qui ont été photographiées. Ce sont des zones que moi j'ai eu la chance de connaître sur des reportages il y a une quinzaine d'années, qui étaient dans un état de féerie impeccable. C'est un véritable jardin sous la mer. Oui. Et aujourd'hui, c'est un terrain de guerre.
Oui.
La faune, la flore, voilà, les poissons, les bancs de poissons restent autour de ces récifs qui ne sont plus que des plaques de calcaire au fond de la mer. Je mettrai les unes aux autres. C'est
donc terrible. Ce sont des écosystèmes qui se meurent, Bernard Salva, très rapidement aussi, dès qu'on a ce phénomène finalement de
c'est-à-dire de l'organisme qui construit ces récifs, c'est un corail et il vit. C'est un animal qui vit avec des algues symbiotiques et c'est cette association entre des algues et des coraux et l'animal corail qui lui permet de construire ce squelette calcaire. Mmh. Et à partir du moment où le corail lui-même est atteint par des questions de température, par exemple trop chaude, à ce moment-là, il perd son association avec les algues. Il devient blanc, c'est pour ça qu'on parle de blanchissement des coraux, et évidemment le récif est terriblement menacé à ce moment-là. Ouais. Et plusieurs épisodes de blanchissement successifs, avec une fréquence importante, vont finir par empêcher le récif de se reconstituer. Et c'est ça qui est dramatique.
Et on oublie que ce sont des animaux, hein, les coraux.
Oui, ce sont... Il y a trois siècles, on pensait que c'était des végétaux, mais
qu'est-ce qui fait justement que ce sont des animaux? Qu'est-ce qui les caractérise alors précisément?
Eh bien, parce que c'est des animaux qui sont au bas de l'arbre généalogique de la vie, en quelque sorte. C'est des animaux très primitifs. Ouais. Et le corail n'est ni plus ni moins que l'association, enfin, sommairement et de façon un petit peu triviale, il n'est que l'association d'une multitude de petites anémones de mer. Mais seulement, il s'est associé avec les coraux, avec les algues, et avec cette association, ça lui permet d'avoir la capacité de construire un squelette calcaire, ce qui est le plus important.
Squelette externe, donc, qui fait donc la beauté de ces récifs coralliens. Il y a plein de questions qui arrivent. Il y a Victor qui demande, par exemple, de quoi se nourrissent précisément ces animaux coraux, alors Bernard Salva?
Eh bien, ils sont en grande partie autonomes, parce que avec les algues symbiotiques, qu'ils hébergent dans leurs tissus, ils ont des échanges de produits essentiels pour la vie, mais néanmoins, ce sont des animaux qui sont carnivores et qui, par leurs polypes, comme une petite anémone, arrivent à capter des éléments du plancton pour s'en nourrir. Mais enfin, la grande partie de leur énergie provient de cette association avec les algues. Ouais. Mais ils ont quand même besoin d'avoir leur activité prédatrice auprès du plancton.
Alexis Rosenfeld, pour nos auditeurs, pour faire une idée justement aussi de l'ampleur d'un récif corallien, d'abord il y a cette photo qui illustre l'exposition de l'UNESCO qui est formidable parce que vous avez mis un plongeur. C'est vous d'ailleurs sur la photo ou pas
qui est... Non, c'est moi qui ai fait la photo.
C'est vous qui avez fait la photo. Bon, il y a un plongeur qui vous accompagne et on voit vraiment ce massif corallien absolument gigantesque près de vous. Il faut s'imaginer une sorte de forêt finalement dans la mer ou...
Une forêt, le massif, c'est une très bonne définition. Mm-hmm. Mais la forêt, elle est intelligente aussi parce que le récif corallien correspond un peu à cette forêt amazonienne, à la richesse de la forêt amazonienne. Et ce qu'on a voulu montrer dans cette exposition à travers cette technique de photographie qui permet de recréer des paysages gigantesques, c'est l'importance de cette vie cachée, en fait, dissimulée, qui est loin des auditeurs, loin des Parisiens, loin des
yeux, tout simplement.
Loin des yeux et particulièrement importante pour l'humanité. Le récif corallien, ça apporte beaucoup. Même pour les gens qui sont très loin d'eux.
Bernard Salva, on va essayer de comprendre pourquoi justement dans un instant. Mais pareil, pour essayer de décrire vraiment l'ampleur de ce que peut être un récif corallien. Qu'est-ce qu'on peut dire alors?
On peut dire que les photos d'Alexis, elles ont une grande profondeur dans les deux sens du terme. Il y a une clarté des eaux qui est extraordinaire. Et par ces photos, il montre toute la richesse, toute la densité de peuplement, toute la biodiversité, comme on dit maintenant, qu'il y a dans ces organismes. Il faut comprendre que les récifs évoluent depuis des millions d'années. Et que les espèces qui sont dans cet écosystème ont noué des relations entre elles, qu'on appelle du mutualisme, de la symbiose, etc. Une multitude de relations qui sont très particulières, ce qui fait que le milieu est très complexe.
Et interdépendant, en fait.
Oui, les espèces dépendent souvent d'une autre, etc. Donc c'est une complexité qui a l'avantage d'un écosystème qui est fort pour se battre contre les agressions, mais aussi qu'il y a une très grande faiblesse quand il y a une attaque, parce que l'attaque retentit directement d'une espèce à une autre.
Ouais, donc dès qu'on désorganise un récif corallien, c'est une espèce de suite.
Comme un puzzle, un peu qui s'en irait, si vous voulez. Alors quand on enlève les coraux, comme les coraux sont à la base de l'écosystème et que c'est de leur production et de leur productivité que se nourrissent tous les autres organismes du récif, dont les poissons, Et bien évidemment, le récif devient à ce moment-là mort et il n'y a plus de ressources pour la pêche.
Il y a une question de Jocelyn qui nous dit ceci. Les coraux ont déjà connu des périodes plus chaudes au cours de l'histoire de la Terre. Ils ont survécu, ils migrent vers des latitudes plus favorables, suivent la tranche d'eau qui est favorable à leur croissance. En quoi l'épisode actuel de réchauffement est-il différent au point de justement de les faire disparaître ?
Bon, alors c'est vrai que si la température augmente, ce qui est le cas et ce qui est prévu dans les décennies à venir, les phénomènes de blanchissement suivis de mortalité vont être importants et qu'à ce moment-là, comme la température de l'eau augmente, les récifs coralliens vont pouvoir coloniser des latitudes plus élevées au nord ou au sud et conquérir un certain espace vers à la surface de la planète. Néanmoins, au niveau de la zone intertropicale, les températures vont être si élevées que les phénomènes de blanchissement vont devenir de plus en plus importants.
Ce qui empêche toute vie de se développer et d'avancer.
Le phénomène de blanchissement dû à une température trop chaude n'est pas dramatique en lui-même. Ça existe depuis des siècles et des siècles. Seulement, c'était peu fréquent. Et un récif qui est détruit par un phénomène de blanchissement, il met à peu près une dizaine d'années à se rétablir. C'est-à-dire, voilà, il faut 10 ans. Seulement si, avant ces 10 ans, vous faites passer un autre phénomène de blanchissement, puis un autre, le récif ne peut pas s'en remettre. Alors, ça n'est pas exactement le cas encore. Mais à l'horizon 2040-2050, toutes les prévisions indiquent que ça risque fort d'être le cas.
Allez, on en parle avec vous dans un instant. C'est le thème de notre dossier cet après-midi autour des récifs coralliens. Et on se retrouve après Shannon Shaw et d'autres questions pour vous sur le site de La Tête au Carré. Broke My Own, Shannon Shaw.
La Tête au Carré.
Le dispositif est artisanal. Des bêtes.
Chaque semaine, à Villefranche-sur-Mer, ainsi que dans d'autres stations marines de France et d'Europe, des scientifiques font des prélèvements. Un point précis de la rade. On veut connaître le pH, soit l'acidité de l'eau, et ses effets sur les organismes marins. Car à trop absorber de CO2, les océans s'acidifient dangereusement.
Le problème, c'est que maintenant, ils absorbent beaucoup de CO2 liés aux activités humaines, ce qu'ils n'ont jamais fait dans le passé. Et donc, ils s'acidifient à un rythme qui est 1000 fois plus important que durant les 25 derniers millions d'années.
Dans une eau acide, les organismes qui ont besoin de calcium pour se développer sont en danger.
On est très inquiet pour le futur des récifs coralliens.
Ce laboratoire des Nations Unies à Monaco travaille en collaboration avec Villefranche. Dans ses bacs, divers organismes sont soumis à une forte acidité.
Donc ici, on injecte du CO2 dans l'eau de mer pour en fait acidifier l'eau dans laquelle les coraux se trouvent, parce que des études ont montré que d'ici à 2100, les coraux, si le pH continue à diminuer de cette sorte, vont diminuer leur calcification de 40%.
Voilà, un reportage dans le JT TF1 en 2010 pour parler entre autres de l'acidification des coraux avec Bernard Salva, biologiste marin, et Alexis Rosenfeld, photojournaliste. Bernard Salva, l'acidification, c'est un problème très préoccupant, ça fait partie des problèmes numéro 1 ou pas?
Je dirais que ça dépend de l'échelle de temps que vous considérez. Mais l'acidification est un problème qui est très important, mais certainement pour la fin du siècle peut-être, mais pas dans l'immédiat. Et le danger immédiat, c'est la température. Encore une fois, c'est la température, le réchauffement des eaux qui est le plus dramatique et qui cause ces problèmes de blanchissement.
Oui. Alors, est-ce que justement cette acidification des océans affecte l'ensemble des coraux? Quelles conséquences à long terme, demande Valérie sur franceinter.fr, oui, pour prolonger la question?
Oui, alors c'est vrai que c'est une bonne question, parce qu'on peut considérer que l'acidification des eaux sera générale et globale, donc mondiale, comme on, hein, ouais, voilà. Et on peut considérer que les phénomènes de blanchissement sont toujours beaucoup plus localisés, même si parfois la localisation, c'est un océan entier. Mais enfin, il n'y a pas de phénomène de blanchissement qui soit mondial et qui atteigne à la fois l'Indo-Pacifique et les Caraïbes. Mais des fois, c'est parfois très étendu.
Alexis Rosenfeld, parlons de ces photos donc à voir en ce moment à l'UNESCO jusqu'à la fin du mois d'août. Ce sont des grands formats, c'est donc une promenade sous-marine pour aller visiter d'ailleurs plusieurs sites. Hein. Vous êtes allé plonger dans différents endroits du monde et avec des techniques particulières justement pour restituer ce que vous voyez avec vos yeux.
Oui, tout à fait. On est parti en Polynésie, rencontrer les scientifiques du CRIOP qui travaillent sur les arbres à coraux et sur une étude sur les coraux résistants, des coraux qui pourraient résister au réchauffement climatique, qui sont présentés dans l'exposition et reportage qui n'a pas encore été publié. On est parti à Saint-Martin après l'ouragan Irma pour essayer d'expliquer, de comprendre quel pouvait être l'impact d'un événement cyclonique majeur sur le milieu marin et en particulier sur le récif corallien, en mer Rouge, où aucun aujourd'hui phénomène de blanchissement ou de mort des coraux n'a été constaté malgré des eaux très chaudes. Professeur Salva, je vous pose la question, pourquoi avec des températures aussi chaudes, la mer Rouge n'est pas impactée?
Est-ce qu'on le sait ou pas alors, Barra?
Oui, parce que simplement, ils sont adaptés à ces températures un peu plus chaudes que le reste de l'océan Pacifique ou de l'océan Indien. Et cette adaptation tient compte à la fois d'eux-mêmes, comme animal, comme polype, et des algues zooxanthelles qu'ils hébergent dans leur tissu. C'est une association qu'ils ont pu modeler à leur guise et qui fait qu'ils résistent un peu plus à des températures plus élevées qu'ailleurs.
Il y a d'autres endroits du monde comme ça, où on a une bonne résistance évolutive des
coraux? Il y a d'autres endroits du monde comme ça, mais qui sont beaucoup plus isolés et qui tiennent à des résurgences d'eau chaude. Alors c'est très localisé, très particulier. Non, la mer Rouge, c'est vraiment particulier. Là.
Qu'est-ce que vous avez développé alors comme technique, Alexis Rosenfeld?
C'est une technique existante qui a été complètement réadaptée au milieu sous-marin, en mélangeant des anciennes optiques complètement reformatées avec ces nouveaux boîtiers très haute définition, on ne fera pas de publicité ici, et qui permettent en fait sur une séquence d'images de reconstituer des paysages complets de récifs coralliens.
Bernard Salva, justement, Alexis Rosenfeld parlait des coraux résistants. Alors ça, évidemment, ils sont extrêmement intéressants parce qu'on les étudie pour comprendre pourquoi eux, face au réchauffement climatique, arrivent à se défendre. Est-ce qu'on a déjà bien identifié le mécanisme ou pas?
Oui, il y a une étude qui va sortir récemment, qui est de Serge Pan, qui est le directeur actuel du CRIOB à Montréal, et qui fait état d'une enquête sur les 30 dernières années dans l'ensemble des îles du Pacifique. Et cette étude montre que la couverture corallienne des récifs, qui signifie un petit peu, qui donne des pourcentages et qui indique la vitalité du récif, n'a pas changé pratiquement dans l'ensemble du Pacifique, mais qui a déjà des signes avant-coureurs d'un changement des communautés, par conséquent d'un changement de certains genres qui semblent prédominer sur d'autres, parce que certains sont plus sensibles aux phénomènes de blanchissement et de mortalité que d'autres. Par conséquent, ceux qui sont moins sensibles commencent à prendre le dessus. Alors, je vais vous citer des noms scientifiques, mais pour ceux qui les connaissent, les porites, qui sont des coraux jaunes, semble-t-il, sont en bonne santé, alors que d'autres, comme les Poecilopora, sont en train un petit peu de décliner. Donc on voit quand même cette tendance sur les 30 dernières années.
Annick demande, est-ce qu'il serait possible d'implanter des coraux à des endroits qui leur seraient favorables? Est-ce qu'on va effectuer des greffes comme ça différents endroits pour tenter de recréer des écosystèmes?
Oui, alors là, non. Là, votre question, elle va au-delà de la question d'Annie, et là on peut répondre non. On peut créer des jardins coralliens, on peut favoriser la croissance des récifs dans des endroits où ils existent un peu, mais c'est très local. L'image que je donne, c'est qu'un hôtel peut avoir devant chez lui, peut créer un récif artificiel. Mais avoir la volonté humaine de créer et de remplacer un écosystème, non. On n'a pas la capacité financière en plus, parce que ce serait des dépenses énormes. Non.
Alors on va écouter un autre reportage consacré à une étoile de mer qui pose elle aussi beaucoup de problèmes. Taramea, c'est son nom, et c'était diffusé sur Outre-mer en 2008.
Le dispositif est artisanal. Des bassines fixées sur de grosses chambres à air et reliées au plongeur par une ceinture en toile de jute. Et puis un crochet pour harponner la Taramea sans la toucher, car elle est très venimeuse. Pour chasser cette étoile de mer mangeuse de corail, l'association Tamari, Pointe des Pêcheurs, a fait appel à toutes les bonnes volontés. Avec un seul but, protéger son lagon et ses patates de corail.
Bon, bah c'est parti.
Élodie, c'est le soutien scientifique dont l'association avait besoin. Elle coordonne le réseau Reef Check en Polynésie, un organisme américain qui aide les populations à surveiller et protéger les récifs coralliens dans 84 pays.
Pour les repérer, en fait, quand elles mangent le corail, ça fait une grosse trace blanche dessus. Donc on essaye de voir où il y a ça s'appelle des cicatrices, où les coraux sont blancs, et donc après on regarde dessous vraiment pour les trouver.
La moindre prise est importante, car une seule Taramea adulte peut produire jusqu'à 60 millions d'œufs.
Bernard Salva, cette Taramea, vous l'avez souvent croisée sur votre route lorsque vous plongiez?
Oui, à la fois
en Polynésie.
Fois en individu isolé, on en trouve une de temps en temps, une par 100 mètres carrés de récif, c'est pas beaucoup, mais le malheur, c'est que quelquefois, cette Taramea, cette étoile de mer, se met à pulluler réellement.
C'est ce qu'on entendait là, et sa capacité est assez phénoménale.
Oui, et alors vous avez, l'image est assez bonne, c'est vraiment un troupeau d'étoiles de mer, comme un troupeau de vaches qui bouffe un reptile. C'est exactement l'image. Ouais. Et derrière le passage de la Taramea, tous les coraux, évidemment, les parties molles des coraux, des parties vivantes ont été absorbées et il ne reste plus que le calcaire blanc.
Ouais. Et comment on peut s'en débarrasser alors de cette étoile de mer?
La meilleure technique, c'est de les ramasser et de s'en servir pour faire des engrais à terre. Il n'y a pas d'autre solution.
Ça peut quand même servir à quelque chose alors finalement.
Oui.
Vous en avez photographié, Alexia Rosenfeld?
Oui, tout à fait, aux Maldives. Il y avait deux Taramea qu'on appelle la Cantaster aussi, qui étaient sur un acroport. Et depuis, je pense, quelques jours, et le corail sous ces deux étoiles de mer était déjà blanc.
Allez, on se retrouve dans un instant, suite de notre discussion à l'occasion de cette année internationale des récifs coralliens, et avec les messages des auditeurs sur le site de La Tête au Carré.
Heureuse. rentre chez moi, tu te retrouves dans mes draps. On fait la guerre, on fait la paix, on y va. On fait la pluie, on fait le beau temps, on est là. Allez, force un peu, c'est pour le bien de nous deux. Si toute seule t'es heureuse, eh bien moi je serai heureux. Allez, force un peu, c'est pour le bien de nous deux. Si toute seule t'es heureuse, eh bien moi je serai heureux. Allez,
laisse-moi te prendre dans mes bras.
Midsizer avec Météo à l'instant.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Voilà, Bernard Salva et Alexis Rosenfeld pour nous parler des récifs coralliens. Je vous rappelle donc cette exposition à voir à l'UNESCO devant les grilles, hein, Alexis Rosenfeld. C'est-à-dire qu'on peut se balader dans la rue et voir vos photos tranquillement sans avoir besoin de rentrer dans l'UNESCO.
Ce n'est pas la peine de rentrer dans l'UNESCO et cette exposition réalisée avec la commission océanographique de l'UNESCO et sur le pourtour de l'UNESCO, Place Fontenoy. Et voilà,
vous et on ne peut pas manquer ces grands formats, que vous signez et des photos qu'on voit dans la presse internationale aussi, parce qu'elles font le tour du monde actuellement.
C'est parti pour un grand tour du monde. Ça a été publié dans le Figaro Magazine en début d'année, qui a ouvert cette année internationale pour les récifs coralliens. Le magazine Stern en Allemagne, le plus gros magazine européen, a publié un très grand reportage pour ces récifs coralliens et en l'honneur de ces récifs coralliens pour participer à la sauvegarde de ces récifs coralliens.
C'est le message, hein, évidemment, qu'il faut faire passer aujourd'hui. Se mobiliser, évidemment. Alors, précisément, Bernard Salva, on a cette question de Karine qui demande quels sont les services rendus par ces récifs coralliens, puisqu'on parle des populations. On disait tout à l'heure que c'est un enjeu pour l'humanité. On aimerait bien comprendre pourquoi exactement, alors.
D'accord. Bon, les récifs coralliens intéressent à peu près un demi-milliard d'êtres humains à la surface de la planète. Hein, c'est ce que ça représente, voilà, à peu près. Maintenant, ce qui est leur intérêt, c'est d'abord qu'ils protègent les côtes. Notamment pour les cyclones, on le voit bien, la protection des côtes.
Donc ça fait une sorte de barrière naturelle.
Une barrière naturelle.
Contre quoi d'ailleurs ? Contre
les vagues et contre les assauts de la mer. Vous avez des îles qui sont des îles volcaniques et qui sont comme un morceau de papier froissé sur une table où la plaine côtière est extrêmement réduite, là où les hommes ont pu s'installer et là où ils sont installés. Vous avez l'exemple de Tahiti, c'est typique, le reste c'est la montagne. Et s'il n'y avait pas les récifs coralliens, la plaine côtière n'existerait pratiquement pas. Donc le premier intérêt des récifs coralliens pour l'homme, pour l'humanité, c'est la protection des rivages. Le deuxième intérêt, c'est les ressources alimentaires que des populations qui sont souvent démunies trouvent dans les poissons et tout ce qui se mange dans les récifs coralliens.
Parce que c'est un attracteur justement de poissons, le récif corallien.
Oui, il y a des ressources quand même. Le récif corallien arrive à produire plusieurs kilos de poissons par mètre carré et par an. C'est donc très important, ça c'est le deuxième avantage. Et le troisième avantage, c'est, celui-là est beaucoup plus récent, c'est tout le développement du tourisme depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'évidemment, tous ces pays tropicaux ont développé une économie.
Mais est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une bonne chose finalement qu'on ait développé le tourisme pour ces récifs coralliens? Parce qu'on s'en plaint aujourd'hui précisément.
Oui, mais comme toute chose, le progrès amène ses avantages et ses inconvénients. On peut pas regretter que ces îles se soient développées, quel que soit le contexte dans lequel elles l'aient fait. Et elles l'ont fait avec le tourisme parce que c'est le moyen qu'elles ont. Et je pense que c'est très bien, mais évidemment, trop de touristes, ça tue le récif, c'est vrai aussi.
Ouais. Alors, la densité de population également, Alexis Rosenfeld, il y a le cas de Mayotte, hein, par exemple.
Mayotte avec un récif corallien et un lagon sublime et une augmentation de la population avec un impact très visible sur l'augmentation des déchets à terre et dans le lagon. Donc il y aura forcément un moment ou un autre, si ce n'est pas considéré par l'État, un impact sur le récif corallien, parce que c'est comme l'effet du plastique, et vous en parliez assez récemment, le plastique va rentre dans la chaîne alimentaire et ça sera le cas pour les récifs coralliens, donc ça aura un impact sur le stress des récifs.
Avec un processus qui va très très vite dans ces cas-là, Bernard Salva, quand il y a une densité de population comme ça, tout d'un coup, un nombre donné.
D'ailleurs, dans tout le sud-est asiatique, la dégradation majeure des récifs coralliens, c'est dû à une surpêche. Il y a des méthodes de pêche qui sont pas respectueuse de la durabilité, en quelque sorte. Ouais. C'est ça l'essentiel, oui.
Toujours autour des services rendus, il y a aussi tout l'aspect moléculaire
pharmaceutique, etc.
Parce que là, on étudie beaucoup ça aussi.
Oui.
Il y a déjà des médicaments sur le marché qui proviennent des molécules antitumoraux et anticancéreux. Oui.
On va écouter un dernier reportage autour du cyclone Oli, qui date de 2010, et on voit justement comment un cyclone peut aussi décaper gravement des récifs coralliens.
Des arbres couchés, des jardins inondés, le cyclone Oli a frappé Toubeï. Les 2000 habitants de cette île de Polynésie française sont restés aux aguets une partie de la nuit, attendant de savoir si leur maison allait supporter les vents à plus de 200 km/h.
À 4 heures du matin, tout est devenu calme. Et puis de 4 heures à 5 heures du matin, pile, le vent est revenu.
Sur cette île, une personne a également trouvé la mort. Les premiers bilans font état de 150 à 200 maisons détruites, souvent des habitations précaires, balayées par le vent et la pluie. Ce bateau a tout simplement été soulevé par des vagues de plusieurs mètres de haut et déposé dans ce champ. La houle a transporté le sable des plages jusqu'à plus de 500 mètres dans les terres.
Voilà, où se trouve-t-on exactement, Berlin Salva, dans le monde, avec ce cyclone Oli, là? On évoquait cette île dans le reportage.
Oui, c'est une île qui était... Le cyclone Oli a surtout... Il est passé par Tahiti, mais il a surtout fait des dégâts importants dans les îles australes, qui sont un peu plus au sud, et notamment dans l'île de Raivae et de Rovutu.
On a encore des questions d'auditeurs pour vous. Ophélie aimerait participer à des opérations de restauration de récifs coralliens. Est-ce que vous pouvez lui conseiller des structures ou au moins des initiatives à faire?
Il y a plusieurs initiatives, et vous pouvez les trouver sur le site de l'IFRECOR, qui est l'initiative française sur les récifs coralliens. Qui dépend du ministère de Nicolas Hulot, pour faire bref, hein, ça va plus vite.
Et de l'Outre-mer.
Voilà. Et puis, vous avez également, quand on parle de la surveillance des récifs coralliens, de quoi s'agit-il? Il s'agit de voir quel est le pourcentage de recouvrement corallien, pour voir quelle est sa vitalité. Mm-hmm. Ce pourcentage, il peut évoluer entre 0 quand le récif est mort, jusqu'à 60% quand les coraux occupent presque tout l'espace. Oui. Et ces surveillances des récifs coralliens sont faites par, on peut dire, deux catégories. De personnes, les chercheurs d'une part, dans des réseaux qui sont internationaux, auxquels participe le CRIOB, et également dans des réseaux qui sont un petit peu plus privés, qui s'appellent ReefCheck, et qui sont faits des réseaux de surveillance pour les touristes. Ce qui est beaucoup plus important, ce qui est une autre démarche, parce que là, il s'agit de sensibiliser les touristes à la santé du récif.
Bernard Salva, ce qu'on n'a pas dit, c'est que 10% des récifs coralliens dans le monde se trouvent sur le territoire français. Donc, c'est-à-dire qu'on est particulièrement concerné par cette affaire.
Oui, on pourrait dire qu'on a même une certaine responsabilité que la France essaye d'assumer au plan international. Bon, les récifs coralliens, ça fait à peu près 600 000 km² la surface de la planète. Mmh. Et on en a à peu près 60 000, c'est-à-dire 40 000 km² en Nouvelle-Calédonie, 15 000 en Polynésie française, et le reste se répartit dans les autres îles. Mayotte, il y en a pour 1 800, Wallis et Futuna, je crois que c'est 1 200, les Caraïbes un peu moins, la Réunion c'est tout petit, etc.
10%,
mais 10%
donc,
c'est pas mal.
Des récifs, c'est beaucoup.
Oui, mais il y a quelque chose que je voudrais souligner, c'est que la France a une autre responsabilité. On n'a pas parlé des atolls, qui sont ces îles basses coralliennes, où il n'y a que du carbonate de calcium, que du corail, mort ou vivant. Hein, c'est des îles basses qui sont très menacées par l'élévation du niveau de la mer. Ces îles basses coralliennes, ces atolls, il y en a 420 dans le monde. Et là, en Polynésie, vous en avez 130, et la France en a la responsabilité depuis le 85. Donc il y a une sensibilité, une responsabilité plus particulière de la France sur ces devenirs d'îles basses, dont on parle souvent avec les Maldives, l'élévation du niveau de la mer, etc.
Allez, encore deux questions très rapidement. Nicolas demande, est-ce qu'on connaît l'impact de l'invasion des algues sargasses sur les récifs coralliens des Antilles?
Oui, l'impact, il est relativement bien, il est connu, il est maîtrisé, mais c'est pas pour ça qu'on peut le diminuer. L'invasion des algues sargasses, comme d'autres algues, ça tient simplement à un enrichissement trop fort des eaux littorales par les rejets des eaux usées. Mmh. Et ça favorise les algues au détriment des coraux.
Et Elisabeth demande si la pêche électrique représente un risque pour les coraux ou uniquement pour leurs habitants.
Non, je ne pense pas que ça
peut être sans...
Mais elle n'est pas pratiquée, la pêche électrique, pas en milieu marin. En milieu d'eau douce, mais pas en milieu marin, ça ne peut pas marcher, la pêche électrique.
En milieu marin, elle n'est pas pratiquée, la pêche électrique?
Tiens. Non, pas dans les récifs coralliens.
Pas dans les récifs coralliens, en tout cas. Oui. Et le chalutage en eau profonde, justement, ces grands filets qui raclent tout sur leur passage?
Alors ça, ça dégrade des formations qui sont parfois coralliennes, mais qui ne sont pas des récifs coralliens. Ce sont des coraux qui vivent sans association avec les algues. Alors elles sont profondes, ça constitue des massifs, des formations bioconstruites, mais on ne peut pas parler de récifs coralliens. Mais oui, ça c'est très dommageable pour les fonds marins également.
Alexis Rosenfeld, pour terminer, un mot sur le dispositif multimédia aussi autour de l'exposition, parce qu'on peut se balader dans la rue, effectivement, près de l'UNESCO pour voir les photos grand format, mais on peut prolonger après avec un certain nombre de documents, de vidéos, de sons qui sont proposés.
Tout à fait, cette exposition s'est voulue multimédia et transmédia. Nous avons travaillé à deux avec Alexis Valois, qui est journaliste et qui a réalisé la partie multimédia de l'ensemble de cette exposition, accessible par des petits QR codes sur l'exposition, qui permettent d'avoir des témoignages de gens, de scientifiques concernés par les récifs coralliens, des pêcheurs qui vivent des récifs coralliens et qui ont été impactés par le cyclone Irma, par des enfants qui découvrent le lagon de Mayotte, par Serge Plane qui nous explique que les récifs coralliens, ou tout simplement, qu'est-ce que le corail.
Donc c'est une façon de prolonger l'exposition, ou de prendre le temps de la regarder autrement avec les outils dont on dispose aujourd'hui.
Vous pouvez également la prolonger par des visites dans les aquariums. Vous avez l'aquarium de la Porte Dorée et également celui de Tocadéro. Vous avez des expositions
très
sur
bien.
Les récifs.
Tout est en lien sur le site de la Tête au Carré autour de cette exposition. Merci beaucoup à tous les deux.
France Inter, santé polémique avec le docteur Dominique Dupagne.
Attention, je vais piquer.
Bonjour Dominique.
Bonjour Mathieu.
L'ASCO, le congrès annuel des cancérologues américains, vient de se terminer à Chicago et le dépistage des cancers grâce à une simple prise de sang semble se concrétiser.
Oui Mathieu, je vous en parle presque tous les ans car ces analyses que l'on appelle désormais des biopsies liquides sont en effet présentées à la presse comme un progrès imminent pour le dépistage des cancers. Or, c'est loin d'être évident.
Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler le principe de ces tests?
Bien sûr. Alors, il y en a plusieurs types. Soit on cherche des cellules cancéreuses qui circulent dans le sang, soit on s'intéresse uniquement à leur ADN. En fait, ça ressemble à ce qu'on appelle les marqueurs tumoraux, des protéines produites par certains cancers qu'on sait doser dans le sang depuis longtemps. Mais nous savons aussi que ces marqueurs ne doivent jamais être utilisés pour le dépistage, mais uniquement pour le suivi du traitement des cancers qui sont déjà diagnostiqués.
Et pour quelle raison alors ?
Parce que la spécificité de ces marqueurs est insuffisante. C'est-à-dire que trop nombreux sujets qui n'ont pas de cancer ont pourtant un test positif et qui seraient bien sûr affolés à tort si on utilisait ces tests de dépistage. Or, le problème est le même pour ces biopsies liquides qui recherchent de l'ADN ou des cellules cancéreuses. On nous parle d'une spécificité de 98%. Ça paraît beaucoup, mais c'est insuffisant.
Pourquoi donc ?
Deux raisons. La première, c'est que le chiffre a été obtenu chez des malades qui ont un cancer suffisamment développé pour avoir été diagnostiqué par des moyens traditionnels. Or, l'objectif de ces tests, c'est de dépister les tout petits cancers encore indétectables. Mais dans ce cas, le seuil de détection doit être abaissé et la spécificité diminue. Quand vous ratissez des feuilles dans une allée de gravier, si vous voulez manquer aucune petite feuille, il faut un râteau avec des dents serrées. Mais vous ramassez du coup plus de gravier. C'est pareil pour les tests. Pour ne pas rater les petits cancers, on diagnostique à tort plus de non-cancer. Alors du coup, si votre spécificité tombe à 90%, ça veut dire que 10% des gens qui n'ont pas de cancer auront un test positif. Alors comme ça, ça paraît peu. Mais ça veut dire que si le cancer recherché est présent chez une personne sur 1000, pour chaque cancéreux détecté, 10% des autres, soit quand même 100 personnes, auront aussi un test positif. Et donc, sur 101 sujets positifs, il y en a un seul qui aura un cancer, 1%. Je détaille ce calcul dans le texte de ma chronique sur le site de France Inter.
Évidemment, c'est moins séduisant d'un seul coup.
Alors c'est rarement présenté comme ça, car il faut bien comprendre que les enjeux économiques sont colossaux. Le business fausse toujours la science. Alors, si pour certains cancers, comme celui du col de l'utérus ou le mélanome cutané, le diagnostic précoce est simple et vital. Pour d'autres, le dépistage est une illusion aussi séduisante que vaine et le progrès viendra plutôt des traitements curatifs, mieux ciblés, moins toxiques et plus efficaces. Alors la pression à propos de ces biopsies liquides va monter car on annonce une commercialisation des premiers tests en 2019.
Ouais, on va rester vigilants.
Comptez sur moi.
Et on va informer tout le monde. Merci beaucoup docteur Dupagne, chronique à réécouter sur franceinter.fr. C'est terminé pour cette émission. Merci à Nasser Mouassi qui était à la technique, Julien Chabassu et Maxime Ingrand. Demain, ce sera le club. On recevra entre autres Cédric Villani pour parler d'une bande dessinée sur les robots.